Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, deux arrêtés anti-pesticides validés par la justice. C'est une première. Est-ce que cela peut faire jurisprudence? Une centaine de maires ont désormais pris des arrêtés pour interdire les pesticides à proximité des habitations. La mort du Lucette détouche. Lucette Céline, la veuve de l'écrivain plus que centenaire. Elle était devenue un personnage du monde des lettres à défendre inlassablement l'œuvre de son mari malgré les horreurs qu'elle contient. L'attaque du chef de la diplomatie américaine contre la Russie, pays qui envahit ses voisins et tue ses opposants. Déclaration à Berlin de Mike Pompeo. Bonne ambiance pour les 30 ans de la chute du mur, nous l'entendrons. 2 ans après le début du mouvement MeToo, les mots de l'actrice Adèle Haenel peuvent-ils enfin casser l'omerta? Son témoignage accusant le réalisateur Ruggia d'attouchement, harcèlement, emprise secoue le cinéma français. Nous en parlerons avec l'invité du journal de 13h, la réalisatrice Tony Marshall. Dans l'actualité encore, l'histoire de Liliana Segre en Italie, rescapée des camps, mais à nouveau victime de racisme et d'antisémitisme et sous protection policière. Des feux de voitures et de poubelles à Nantes, près de plusieurs lycées. Et puis la proposition de loi contre le communautarisme de Bruno Retailleau. À 13h30, La Terre au Carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel sera le menu?
Je reçois la primatologue Sabrina Krief qui publie « Chimpanzés, mes frères de la forêt », le récit de son travail en Ouganda, l'occasion de mieux connaître ces grands singes qui sont nos plus proches cousins. Toutes vos questions dès maintenant à Sabrina Krief.
01 45 24 7000, émission à 13h30. Avant cela, notre rendez-vous du vendredi. J'ai testé pour vous. Philippe Lefebvre a testé l'A350, l'avion qu'Airbus présente comme écolo. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
C'était une figure de la vie littéraire à sa manière. Elle avait 107 ans. Lucette Détouche, la veuve de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline, vient de mourir. Céline, génie des lettres et diable d'homme, était mort en 1961. Il avait 20 ans de plus qu'elle. Ils s'étaient rencontrés en 36 dans un studio de danse, puisqu'elle était danseuse. Lucette Détouche a défendu Céline toute sa vie, malgré les pamphlets antisémites. Écoutez-la ici, en 65, 4 ans après la mort de son homme, toujours des étoiles dans les yeux.
Vous voyez les choses si clairement, n'est-ce pas? C'est justement que c'était merveilleux, quoi. C'était, chaque instant était une découverte de la vérité. Et puis de la probité, de la conscience. C'était un être si dénué d'hypocrisie, si plein de justice, justice, je parle au point de vue que chercher droitement, n'est-ce pas, les choses et non pas tricher. Il ne trichait jamais. Parce qu'il n'a jamais cherché ce qu'on pensait de lui. Il a cherché en lui-même ce qui était juste. Et c'est tout. Il ne pouvait pas faire autrement. Alors, rien ne l'atteint. Il est absolument inattaquable. La langue française, pour lui, était son point de perfection, n'est-ce pas? Il voulait retrouver un rythme. Il ne cherchait pas son copie. Il voulait trouver dans lui sa perfection de s'exprimer, c'est tout.
Voilà, une femme, une veuve qui défendait en 65 son mari, dont les écrits ont été à la fois célébrés et controversés depuis toujours. C'était dans l'émission 16 millions de jeunes sur l'ORTF, émission d'André Arroy et Alain de Sédoui. C'est une première. Pour la première fois, la justice administrative valide 2 arrêtés anti-pesticides. Arrêtés pris par les maires de Gennevilliers et Sceaux en banlieue parisienne. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Question Sandy, alors qu'une centaine de maires, après celui de Langouette, le premier, ont pris des arrêtés dans ce sens. Est-ce que la décision va être suivie par d'autres?
En tout cas, il y a débat, elle relance le débat. Le maire de Sceaux avait pris cet arrêté pour interdire entièrement l'usage du glyphosate, le désherbant et d'autres substances chimiques, même si l'usage de ces pesticides est désormais interdit dans les espaces verts publics et dans les jardins des particuliers. L'élu estimait qu'il y avait des trous dans la raquette. Ce matin, Philippe Laurent, UDI, par ailleurs secrétaire général de l'Association des maires de France, est donc plus que soulagé.
Nous sommes surtout très satisfaits de cette décision. En milieu urbain, nous avons considéré qu'il fallait que nous interdisions l'utilisation du glyphosate, notamment parce que la loi n'allait pas assez loin pour les copropriétés et pour les emprises de voies ferrées, par exemple, comme la RATP, la SNCF, etc. C'est pour ça qu'on a pris cet arrêté.
Voilà, le tribunal administratif de Pontoise rejette donc la demande de la préfecture des Hauts-de-Seine qui avait demandé la suspension des 2 arrêtés anti-pesticides de Sceaux et de Gennevilliers. Argument juridique détaillé par Corinne Lepage, l'avocate des deux communes.
Eu égard à la présomption suffisamment établie de dangerosité et de persistance dans le temps des effets néfastes pour la santé publique et l'environnement des produits que l'arrêté interdit, et en l'absence de mesures réglementaires suffisantes prises par les ministres titulaires de la police spéciale, le maire de cette commune a pu à bon droit considérait que les habitants étaient exposés à un danger grave justifiant qu'ils prescrivent les mesures contestées.
Alors, cette décision de justice a été prise en référé, c'est-à-dire en urgence. Les deux arrêtés doivent maintenant être examinés sur le fond, mais ils relancent le débat. Aujourd'hui, une centaine de villes ont pris des arrêtés anti-pesticides.
Merci Sandy Dauphin. Voilà une attaque verbale mais frontale de la part des États-Unis à l'encontre de la Russie. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est à Berlin pour les 30 ans de la chute du mur. Et ce n'est pas un discours d'apaisement à l'égard de la Russie qu'il tient à cette occasion. Au contraire, écoutez-le ce matin.
Aujourd'hui, la Russie, emmenée par un ancien officier du KGB posté à Dresde, envahit ses voisins et réduit ses opposants politiques. Au moment où nous parlons, les autorités russes utilisent des raids policiers et des tortures contre les Tatars et les Ukrainiens de Crimée. En Tchétchénie, quiconque est considéré comme indésirable disparaît tout simplement. En Chine, le Parti communiste est en train de donner un visage à l'autoritarisme que l'on n'avait pas vu depuis longtemps. Le Parti communiste chinois utilise des méthodes pour réprimer son propre peuple qui sont horriblement familières aux anciens Allemands de l'Est. L'armée populaire de Chine se déploie sur les territoires de ses voisins du Sud et le Parti communiste chinois empêche ceux qui sont critiques de voyager. La police communiste harcèle les familles des musulmans du Xinjiang qui ont été simplement chercher refuge à l'étranger. Il faut reconnaître que les nations libres sont en concurrence de valeur avec ces nations non libres.
Voilà pour ces propos très directs, voix off. Éric Biegala est décidément en ce 30e anniversaire de la chute du mur. C'est l'architecture des relations internationales qui fait entendre des craquements. Cette déclaration assez fracassante d'Emmanuel Macron hier au journal The Economist, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Le président français pointe le désengagement américain, la guerre menée par un des membres de l'Alliance, les Turcs contre des alliés de beaucoup de pays occidentaux, les Kurdes. L'OTAN, l'Alliance Atlantique, avait été imaginée après la guerre pour se défendre à l'époque contre la menace russe et soviétique. C'est ensuite devenu l'alliance de défense de l'Occident, pour le dire vite, activée notamment après les attentats du 11 septembre. Les États-Unis continuent de la défendre, mais plaident pour que l'Europe paye davantage pour son fonctionnement. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Autre membre important de l'OTAN, l'Allemagne. Que dit-on en Allemagne des déclarations d'Emmanuel Macron ?
Eh bien, Angela Merkel ne partage pas cette vision qualifiée de radicale sur l'état de mort cérébrale de l'OTAN. Je ne pense pas qu'un tel jugement intempestif soit nécessaire, dit la chancelière, même si nous devons nous ressaisir. Interrogée à Berlin aux côtés du secrétaire général Jens Stoltenberg, la dirigeante allemande ajoute que l'Alliance Atlantique demeure la pierre angulaire de la sécurité européenne. Si Angela Merkel ménage l'OTAN, c'est d'abord parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance, faute de solutions alternatives, malgré le désengagement annoncé des États-Unis en Europe. La réalité, c'est que sans l'OTAN, Berlin n'aurait pas les moyens d'assurer la défense du pays. L'objectif est d'augmenter les effectifs de 14 000 hommes d'ici 2025 pour atteindre 186 000 soldats, ce qui reste insuffisant et le matériel fait défaut. Les rapports parlementaires pointent des avions de transport A400M cloués au sol, des sous-marins en maintenance et une partie des chars Léopard inutilisables. À plusieurs reprises, Donald Trump a demandé un meilleur partage du financement de l'OTAN. L'Allemagne n'en prend pas le chemin, qui prévoit dès 2022 un recul des dépenses militaires par rapport à son produit intérieur brut.
Et dans la série, le climat se dégrade. Cette histoire qui nous dit que décidément, la droite extrême gagne du terrain en Italie. Voici une dame de 89 ans, rescapée de la Shoah. Elle s'appelle Liliana Segre. Elle vit à Milan et trois quarts de siècle après la guerre, elle vient d'être placée sous escorte policière. Quels sont ses crimes ? Bruce de Galzin, il y en a deux. Être juive et lutter inlassablement contre le racisme et l'antisémitisme.
200 messages d'insultes et de haine chaque jour. Liliana Segre, victime hier, déportée à 13 ans à Auschwitz, dont elle est une des rares italiennes à être revenue, est encore victime aujourd'hui parce qu'elle lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
J'ai été victime de la haine et aujourd'hui encore je suis manifestement un symbole qui dérange.
Nommée sénatrice à vie il y a un an et demi, Liliana Segre dérange parce qu'à 89 ans, elle a fait adopter par le Sénat la création d'une commission spéciale pour lutter contre l'intolérance et l'incitation à la haine. Elle s'en expliquait devant les sénateurs.
La lotta contre il razzismo e la xenofobia.
La lutte contre le racisme et la xénophobie est au cœur de chaque politique des droits de l'homme. La tolérance et le respect de la dignité d'autrui constituent les fondements de chaque société vraiment démocratique et pluraliste.
Des propos qui n'ont pas convaincu les sénateurs de droite et d'extrême droite, ils se sont abstenus. Liliana Segre, qui a mis plus de 40 ans à oser témoigner dans les écoles de ce qu'elle a vécu, se retrouve aujourd'hui escortée par des carabiniers. Rome, Bruges de Galzin, France Inter.
Et une manifestation contre le racisme et en défense de Liliana Segre sera organisée à Milan le 10 décembre, jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En France, la menace que voit monter la droite en particulier, mais pas seulement, c'est la montée du communautarisme. Pointé du doigt en particulier, un petit parti qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans français, qui rejette ce terme de communautariste qui lui est accolé. Dans son programme, il y a des sujets généraux, mais aussi le développement de la finance islamique, de la filière halal ou de la lutte contre l'islamophobie, ce terme controversé. L'UDMF a fait un tout petit score aux européennes, 0,13%, mais des pointes à plus de 6% dans plusieurs communes de banlieue parisienne. Et son objectif est de présenter une cinquantaine de listes aux prochaines municipales. Bonjour Cécilia Arbonin.
Bonjour Bruno.
Cécilia, le chef des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, présente ce matin une proposition de loi contre le communautarisme avec cette question en fil rouge. Comment traduire en loi la lutte contre un concept qui n'est pas toujours très clair,
hein. Et Bruno Retailleau sera reçu mardi matin en urgence par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui invite aussi Place Beauvau, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Tous les deux sont des experts, en fait, de ces listes communautaires. Ils ont donné l'alerte en premier. Et c'est par un texto de Christophe Castaner que M. Retailleau a été convié.
Pour contrecarrer l'islam politique, celui qui veut placer la charia au-dessus de la loi de la République, et il faut absolument y faire obstacle.
Alors le président des sénateurs républicains a même son plan d'attaque clé en main.
Interdiction du financement public à partir de l'argent du contribuable pour les partis communautaristes. Interdiction des candidatures qui seraient communautaristes. Et puis troisième proposition, quand un maire fait un mariage, il a la neutralité religieuse qui s'impose à lui. Moi je propose d'étendre ce moment à tous les moments solennels, par exemple dans un conseil municipal.
Bruno Retailleau veut faire appel au préfet et au juge des élections pour stopper ce qu'il appelle la progression inquiétante de l'islam politique.
Il y a un agenda de l'islam politique. Ils ont d'abord conquis des lieux de culte, ensuite conquis le champ social, associatif, de clubs sportifs, ensuite des quartiers, et la dernière marche avant la sécession, ce sera de conquérir le pouvoir.
Le pouvoir municipal en mars prochain, qui serait donc menacé notamment par un parti dont vous avez parlé, l'Union des démocrates musulmans, créé en 2012.
Et donc le dépôt de la proposition de loi aujourd'hui au Sénat et la rencontre au ministère de l'Intérieur mardi.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Il y a moins d'une semaine, sur le site Mediapart, enquête et interview, l'actrice Adèle Haenel, 30 ans, mais déjà 17 ans de carrière et 2 Césars, accusait le réalisateur Christophe Ruggia, le premier avec qui elle est tournée, très jeune, 13 ans. Elle décrivait une emprise pendant le tournage, puis des faits de harcèlement, d'attouchement ensuite, et ce pendant 3 ans. C'est sans doute le témoignage le plus marquant dans le cinéma français depuis que la parole a commencé à se libérer il y a 2 ans avec le mouvement MeToo. Le témoignage en plus est étayé par la parole d'autres témoins nombreux. Il est important de préciser que le réalisateur Christophe Ruggia a reconnu l'erreur d'avoir joué les Pygmalions mais qu'il nie toute violence. Alors sur quoi ouvre ce témoignage? Peut-il aboutir à des vrais changements dans le cinéma et la société? Pour en parler en studio avec nous, la réalisatrice Tony Marshall. Bonjour madame.
Bonjour.
Je voudrais pour commencer, Tony Marshall, qu'on écoute un extrait de l'interview d'Adèle Haenel. Elle raconte pourquoi, 17 ans après les faits, elle a décidé de parler. Quand elle dit lui, je le précise tout de suite, elle parle de Christophe Ruggia, c'était donc sur Mediapart. Le déclic, dit-elle, c'est un documentaire sur Michael Jackson.
Quand j'ai vu le film Leaving Neverland, j'ai pas pu m'empêcher de voir des mécanismes d'emprise et de fascination qui ont été complètement à l'œuvre aussi dans mon histoire. Et en fait, ça m'a fait du bien. Et je me suis renseignée sur lui, quoi, pour prendre des nouvelles. Et j'ai vu qu'il était en projet d'un nouveau film et que le film parlait de 2 adolescents. Je me suis dit, mais il peut pas refaire un film avec des adolescents, en fait. Voilà comment ça s'est passé dernièrement, mais après, c'est un processus très long. Ça va de juste essayer de commencer par survivre. Après avoir une colère qui part un peu dans tous les sens, y compris contre soi-même. Ensuite, commencer à ouvrir des conversations avec des gens qui nous croient. Et se dire pour soi-même, effectivement, c'est un problème, en fait, c'est grave ce qui m'est arrivé. Et puis, il faut dire aussi que le monde a changé. Je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. En fait, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi. Parce que je suis en mesure de le faire, parce que j'ai un confort matériel, des alliances qui font que je suis pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive. C'est pour leur parler à elles et à eux, en fait. Faut dire que ils sont pas tout seuls, quoi.
Voilà ce que disait Adèle Haenel à Edoui Plenel sur Mediapart. Comment avez-vous reçu ce témoignage? C'est la première fois qu'une vedette dans le cinéma français parle de manière aussi claire, ferme et détaillée, Tony Marshall.
Et oui, c'est même étonnant que ça arrive seulement maintenant. Mmh. Et Adèle Haenel, je ne la connais pas, je ne l'ai même jamais croisée. Mais ce qui m'a frappé, c'est le cran qu'elle a eu et la façon qu'elle a de s'exprimer, qui est extrêmement claire, qui est sans chichi, qui décrit étape par étape ce qu'on avait déjà un peu entendu chez les jeunes enfants qui avaient été manipulés par des prêtres, puisque là, c'est quasiment une affaire de pédophilie.
Elle avait 12 ans au départ.
C'est une parole qui devrait pouvoir s'appliquer aussi aux filles qui ont été violées dans le cinéma, dans le même genre de relations emprise, pouvoir. Il y a toujours pouvoir, emprise affective, spirituelle, artistique, etc., etc.
Je voudrais qu'on s'arrête sur cette notion d'emprise. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a forcément, au moment d'un tournage entre un réalisateur et une actrice, une jeune actrice, une relation très forte qui s'établit. Où est la barrière? Comment éviter que de cette relation forte, on arrive à une emprise et des abus? Et est-ce que c'est inévitable, ce phénomène d'emprise?
L'emprise est absolument évitable. Mmh. La relation, c'est un métier de séduction, oui. C'est-à-dire que le réalisateur, l'actrice ou l'acteur, moi je suis femme, donc je pourrais dire c'est avec des acteurs, oui. Mais on a forcément une relation de séduction l'un par rapport à l'autre parce que ça va jouer dans le futur du film. Mais sur ce sujet-là, j'aurais voulu attirer l'attention parce que ce qui m'a beaucoup frappé, vous l'avez cité dans votre début, c'est l'espèce d'omerta. Oui. Qu'il y a là-dessus. Adèle Hélène Haenel est la première à en parler. Et moi, ce qui me frappe, c'est que je ne comprends pas pourquoi les hommes ne s'emparent pas de cette parole. C'est-à-dire vraiment, la majorité des hommes sont des hommes justes, comme dirait Yvon Jablonka, dont je suis en train de lire le livre, qui est extrêmement intéressant et qui montre à quel point c'est une construction. Et pourquoi dans ces moments-là, alors qu'effectivement il y a une espèce de frilosité dont on peut se dire, oh, sur un tournage, on veut pas déranger parce que ça va mettre le film en risque, etc., etc. Mais c'est tout le temps. Donc, c'est tout le temps dans toutes les entreprises, c'est pas que dans le cinéma. Mmh. Le cinéma est souvent prescriptif, donc c'est intéressant de s'y pencher en tout premier lieu. Mais pourquoi les hommes ne... Moi, je fais partie, par exemple, d'un collectif qui est le collectif 50-50 qui travaille, oui, à renforcer la parité et la diversité dans le cinéma. Mais on est 90% de filles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'hommes qui viennent avec
nous? Et vous en avez parlé avec les hommes du cinéma depuis 2 ans, les réalisateurs, les acteurs, les techniciens.
De temps en temps, je me dis, je vais appeler un tel, je vais lui... C'est-à-dire, mais même, je me dis, pourquoi spontanément, à un moment donné, vous vous rendez compte de la force qu'il y aurait si tout d'un coup, il y avait un collectif, une tribune, des hommes qui tout d'un coup se disent, mais on n'est pas comme ça. Oui. Nous, on n'est pas ces hommes-là, on n'est pas des tripoteurs, on n'est pas des violeurs et on couvre pas ça. Mais si tout d'un coup ça c'était large, mais je pense qu'il y aurait 4 fois moins de violeurs et de tripoteurs. Parce qu'il y aurait une espèce d'idée que c'est un tout petit nombre qui pollue.
Alors, Unifrance, qui est l'organisme qui promeut le cinéma français à l'étranger, veut mettre en place une charte. Est-ce qu'il y a des mesures possibles de prévention, surtout quand il s'agit de très jeunes acteurs ou actrices? Est-ce qu'il faut, je sais pas, que quelqu'un assiste au tournage? Il y a des mesures très concrètes.
Là, on est en train, dans les chartes qu'on va faire signer avec le collectif 50-50, c'est d'avoir sur chaque tournage ce qu'on appellerait un référent, c'est-à-dire quelqu'un à qui un jeune acteur, une jeune actrice, ou voire pas jeune, parce que, je veux dire, ça peut arriver aussi à quelqu'un de 25-30 ans, même si on est soi-disant plus apte à se défendre. Mais encore que, c'est très compliqué, ces choses-là. Donc, d'avoir un référent à qui on peut venir parler et qui serait la personne qui, tout d'un coup, ferait péter ce silence. Parce que c'est ça qu'il faut faire péter, c'est cette espèce de...
Et pourquoi, de votre point de vue, n'a-t-il pas pété le silence, pour reprendre votre expression, depuis 2 ans? Parce qu'il y a 2 ans, on s'était dit, ça y est. Et puis, en fait, ça s'est quand même relativement tassé. Alors là, ce témoignage vient relancer.
Ouais. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que j'entends même de temps en temps des « oh là là, MeToo, il y en a marre », etc., etc. Mais MeToo, je dirais presque que c'est un épiphénomène. Ça avait commencé avant. Le monde change. Du point de vue des femmes, on est passé de la cabine téléphonique au téléphone portable, si vous voulez. Donc, ça va pas revenir en arrière. Donc, les femmes vont prendre de plus en plus de place, voire leur place, c'est-à-dire la place qu'elles n'ont pas pu prendre avant.
C'est le cas dans le cinéma français? Ça se féminise.
En tout cas, oui, c'est, je pense que ça se féminise et ça, on est encore très en retard. Quand on a les chiffres, on tombe par terre. Moi, j'ai appris l'autre jour qu'il y avait que 12% de réalisatrices dans l'audiovisuel. On se dit 12%, mais il y a un vrai problème, quoi. Et donc, elles vont prendre petit à petit leur place. On va faire signer des chartes. On va, voilà. Mais c'est un mouvement. On voit bien quand vous lisez le livre de Jablonka, vous voyez bien à quel point cette construction est forte, qu'elle existe depuis la nuit des temps et que pour faire bouger ça, voilà. Et je pense que le silence, il est aussi part de ça, c'est-à-dire une espèce de solidarité masculino-terrorisée. Quelque chose de...
Et que vous appelez à casser aujourd'hui, que
oui,
les hommes prennent la parole.
Parce que je pense que leur force, c'est de parler.
Vous comprenez qu'elle ne porte pas plainte, Adèle Haenel ? Elle dit...
Absolument. Non seulement je comprends, mais parce que je trouve que le dire, ça signifie, et ce qui est la réalité, porter plainte, la plupart du temps, ça ne sert à rien. Et tant que ça servira à rien, qu'une fille de cette nature-là dise « je ne vais pas aller porter plainte », ça servirait à rien, je pense que c'est signifiant.
Je parlais d'Unifrance, il y a aussi la société des réalisateurs qui a radié Christophe Ruggia, le fait qu'il y ait des institutions comme ça, le ministère de la Culture qui est en soutien d'Adèle Haenel, qu'il y ait des institutions qui soutiennent cette parole, c'est important ou...
Oui, que les institutions soutiennent, elles soutiennent toujours après la bagarre, hein, je veux dire, donc elles sont toujours... Encore une fois... C'est les hommes de la société du cinéma qui devraient, eux, parler et dire on n'est pas de cette nature-là. Moi, j'ai vu une série très intéressante qui s'appelle Unbelievable, qui est une série sur le viol. Et la série commence, il y a une fille violée qui est interrogée par des policiers masculins, qui sont pas du tout décrits comme des affreux, qui sont des policiers masculins, qui font leur boulot, qui ont l'habitude d'interroger des filles. Et la fille, elle est traumatisée, elle s'embrouille, elle dit un truc, elle revient dessus, etc., etc. Et donc, du coup, ça part un peu aux oubliettes. Et puis, l'enquête est reprise par deux policières femmes, qui simplement les interrogent différemment, qui simplement les entendent différemment. Et simplement ça va faire aboutir l'enquête.
Merci Tony Marshall d'être venu dans les studios de France Inter et on retient votre parole que les hommes du cinéma prennent la parole.
Absolument.
Comment lutter contre les violences sexuelles face aux femmes ? La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes défend une mesure présentée mercredi dans le cadre de la réforme de la politique d'immigration du gouvernement. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
C'est expulser les étrangers condamnés pour des violences sexistes ou sexuelles. Est-ce que c'est possible ?
Eh oui, c'est possible. Et d'ailleurs, ça se fait déjà. L'interdiction de territoire français peut être prononcée en cas de viol ou agression sexuelle. Soit la personne est condamnée à être expulsée, soit elle est d'abord condamnée à une peine de prison, à l'issue de laquelle elle est invitée à quitter le territoire, avec plusieurs réserves, mais comme pour toutes les situations, hein, que l'on sache vers quel pays l'a renvoyé, qu'il n'y ait pas de gros retard administratif. Et puis, il y a des exceptions prévues par la loi. Impossible, par exemple, dans certaines conditions, d'expulser le parent d'un enfant mineur qui a la nationalité française. Donc, la question, quand on essaie de comprendre les propos de Marlène Schiappa, est de savoir si elle veut mettre fin aux exceptions et donc faire modifier les textes. Et là, c'est nettement moins clair. Du côté du secrétariat d'État chargé à l'égalité entre les femmes et les hommes, on dit vouloir surtout une nouvelle impulsion. Tolérance zéro, faire appliquer la loi. Mais pour ce qui est de l'aspect purement juridique, d'élargir les possibilités d'expulsion, en revanche, Marlène Schiappa l'a dit elle-même, la balle est désormais dans le camp de deux autres ministères, celui de l'Intérieur et celui de la Justice.
Cinq personnes interpellées après des incidents ce matin à Nantes, aux abords de plusieurs lycées. Cinq voitures et des poubelles ont été brûlées. Est-ce qu'on en sait un peu plus, Manon Klein ?
Cinq lycées au moins sont touchés par ce qui ressemble à des tentatives de blocus. Sacré-Cœur, Gaspard Monge, Les Bourdonnières, Carquette et Albert Camus. Albert Camus où hier déjà des poubelles avaient été brûlées, des pavés avaient été jetés sur les portes vitrées de l'établissement. Ce matin, ce sont également des voitures qui ont été incendiées, au moins trois près du lycée Sacré-Cœur, deux à Gaspard Monge au nord de Nantes. On peut encore voir les carcasses sur le parking rue de la Fantaisie. La vitre d'un abribus a été brisée également à l'autre bout de la rue. Là, ce serait entre 40 et 50 personnes qui se seraient rassemblées, selon la police et plusieurs témoins. Toujours selon la police, des projectiles auraient également été jetés sur des ouvriers et sur un tram. Une vitre a été cassée. Les élèves parlent bien d'une tentative de blocus pour protester contre la réforme du bac. Ils évoquent un appel diffusé sur les réseaux sociaux pour se rassembler devant plusieurs lycées nantais.
La série des prix littéraires et il y a quelques minutes, le prix Médicis a été attribué. Il a été attribué à Luc Lang pour La Tentation. C'est édité chez Stock. J'ai testé pour vous notre rendez-vous du vendredi dans ce journal de 13h. Aujourd'hui, nous avons testé un avion. Rien que ça. Alors, pas n'importe lequel, évidemment. L'avion star d'Airbus, l'A350. Air France n'en avait pas jusque-là, mais vient de mettre en service ses deux premiers modèles sur des liaisons avec le Mali et le Canada. Particularité, et c'est ça qu'on a testé, l'A350 est présenté comme l'avion le plus écolo d'Airbus, voire parmi les avions de grande ligne, le numéro 1. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Alors vous avez testé entre Paris et Toronto. La différence, dites-vous, se voit dès qu'on entre dans l'appareil ?
Même avant qu'on entre dans l'appareil. Vous voyez, vous êtes sur la passerelle,
oui.
Vous regardez légèrement sur la gauche, et là vous allez voir les vitres du poste de pilotage. Généralement, vitres transparentes, des encadrements blancs,
oui.
Et bien là, c'est un masque de Zorro noir.
Waouh.
Vraiment un petit clin d'œil des architectes d'Airbus. Ensuite, vous rentrez dans l'avion et là, vous avez tout de suite un sentiment d'espace. Il y a plus de place, y compris en classe éco. C'est ça le plus important d'ailleurs. Les hublots sont 30% plus grands que les hublots classiques. Et puis, la chose la plus étonnante, c'est le bruit. Catherine Villard, qui dirige l'expérience client chez Air France, m'attendait à bord de l'avion pour m'expliquer ça.
Allez, c'est parti.
Son empreinte sonore, elle est moindre de 40% par rapport à un autre avion de même génération. Ça crée une ambiance de bien-être dans la cabine. Et puis 40% de bruit en moins pour les riverains, quand on habite près d'un aéroport, c'est hyper important.
Ah oui, c'est pas uniquement une question d'insonorisation de la cabine.
Non, c'est aussi l'insonorisation de l'équipement de l'avion et de ses moteurs.
Mais le plus important, c'est bien sûr la consommation de kérosène. Alors direction l'avant de l'appareil où m'attend Jean-Baptiste Brevet, c'est le commandant de bord.
Et préparez-vous pour le décollage.
Vous, quand vous êtes aux commandes, vous avez les mêmes performances, le même rendu qu'avec un autre avion ?
Clairement, on sent même la différence de technologie au niveau des moteurs. Avec un avion plus gros, plus rapide, qui emporte donc plus de charge, on a des performances qui sont, en termes de consommation carburant, inférieures à celles d'un Airbus A330, qui est la génération précédente. Alors, à charge égale, ces technologies, on est sur du moins 25%, c'est colossal.
Et on peut même garer l'avion avec un seul moteur sans qu'aucun passager ne s'en rende compte. Mais moins pollué, je suppose que ça a un coût. Alors je vais demander à Anne Rigaille, la directrice générale d'Air France, combien ça coûte.
1 milliard d'euros par an d'investissement à peu près en renouvellement de flotte. Et donc notre enjeu, c'est que les taxes diverses et variées ne pèsent pas trop sur nos comptes, de manière à ce que nous puissions préserver ces investissements qui sont bons, évidemment, pour l'entreprise, mais qui sont essentiels pour notre transition écologique et pour nos clients.
Alors, évidemment, le billet d'avion est beaucoup plus cher ?
Pas du tout, non, puisqu'Air France s'est engagée à ne pas répercuter la nouvelle taxe environnementale sur le prix du billet. Et puis, pour la compagnie, c'est plutôt pas mal, puisqu'on fait un quart d'économie de réservoir. Donc, finalement, on gagne de l'argent en étant plus vert.
Allez, nous sommes dans les airs, nous y restons.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Sébastien Léas.
Le temps est encore bien agité dans le sud-ouest avec de nombreuses averses et de fortes rafales de vent cet après-midi. Les averses débordent jusqu'au Bas-Languedoc, au Poitou, au centre-Val de Loire et à l'Auvergne. Au sud de la Garonne, les averses sont encore plus fréquentes et même orageuses et on attend beaucoup de neige sur les Pyrénées. Des orages éclatent également en Corse, surtout sur l'ouest de l'île. De la Gironde à la Vendée, au nord de la Loire et sur les régions de l'Est, l'après-midi est plus clément, même si quelques averses ne sont pas exclues cet après-midi, notamment près de la Manche et entre les Alpes du Nord et l'Alsace. Les éclaircies sont assez nettes et le soleil se montre encore plus présent en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures maximales continuent de baisser, variant entre 5 et 13 degrés avec 13 à 17 degrés autour de la Méditerranée.